d'aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il est 17h30 en temps universel. Jacques Aristide dans votre compagnie. Ravi de vous retrouver pour Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Les titres en ce mercredi 30 mai 2018. Visite du patron de l'ONU à Mopti au Mali, Antonio Guterres, promet de soutenir la force du G5 Sahel. Au Zimbabwe, la présidentielle aura lieu le 30 juillet prochain, premier scrutin de l'après Mugabe. Corée du Nord, le bras droit de Kim Jong-un rencontre l'Américain Mike Pompeo pour préparer le sommet avec le président Trump. Dans la partie magazine, gros plan sur la traversée mortelle du désert nigérien pour des migrants en route pour l'Europe via la Libye.
On est pas à l'échelle comme il y a un an et demi ou deux ans, où il y avait des convois qui passaient sur la route même pendant la journée.
Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économiques et sportives à venir dans 10 minutes. Deuxième jour de la tournée du secrétaire général de l'ONU au Mali, où les Nations Unies mènent actuellement leur plus périlleuse mission de paix. À Mopti ce mercredi, Antonio Guterres a plaidé pour un soutien accru à la force conjointe mise sur pied par les pays du G5 Sahel pour lutter contre les djihadistes. De Mopti, la correspondance de Mamadou Bokoum.
Cette visite de quelques heures a été l'occasion pour Antonio Guterres de faire une série de rencontres à Mopti. Tout d'abord, le secrétaire général des Nations Unies a eu un tête-à-tête avec l'état-major du G5 Sahel. Ici, il a été question de l'opérationnalisation de la force des 5 pays du Sahel, une force qui attend beaucoup des Nations Unies. Didier Dacko est le chef d'état-major général du G5 Sahel.
Ce que nous attendons de l'ONU, c'est un peu ce que nous attendons de toute la communauté internationale, un appui. Un appui dans toutes les dimensions, que ce soit sur le plan opérationnel, que ce soit sur le plan logistique.
Cette mission de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière est appréciée par le plus haut fonctionnaire international. C'est pourquoi Antonio Guterres s'est engagé à mettre tout son poids pour appuyer le G5 Sahel afin qu'il réussisse sa mission.
Nous ferons un plaidoyer très fort face à la communauté internationale pour que le G5 puisse disposer des ressources financières et matérielles nécessaires à son efficacité. Et nous demandons aussi à la communauté internationale un grand investissement pour le développement de la région, le développement du Sahel, parce qu'il n'y a pas de paix sans développement et il n'y a pas de développement sans paix.
Le numéro 1 des Nations Unies a aussi rencontré les leaders communautaires et les organisations de la société civile. Avec ces deux couches, il a été question de la situation que vit la région de Mopti. Mamadou Bokoum à Mopti pour VOA Afrique.
Au Cameroun, Human Rights Watch demande la libération immédiate de la directrice d'un lycée public en banlieue de Bouéa, capitale de la région anglophone du Sud-Ouest. Georgiana Enanga Sanga a été enlevée le 25 mai dernier. L'ONG appelle les groupes séparatistes à stopper toutes les attaques qui visent à entraver l'éducation des enfants. Les indépendantistes qui ont incendié de nombreux établissements scolaires avaient appelé à boycotter des établissements scolaires de ces régions. Au Zimbabwe, les premières élections présidentielles et législatives de l'après Robert Mugabe seront organisées le 30 juillet. L'actuel président Emmerson Mnangagwa est présenté comme grand favori. Les précisions de John Lyndon.
Ancien vice-président tombé en disgrâce, Emmerson Mnangagwa, 75 ans, a succédé en novembre dernier à Robert Mugabe, contraint à la démission par un coup de force de l'armée et de son parti, après avoir régné sans partage depuis l'indépendance du Zimbabwe en 1980. Sauf surprise, il devrait l'emporter dès le premier tour. Un éventuel second tour est fixé au 8 septembre. Il sera organisé au cas où aucun candidat ne parvient à obtenir la majorité absolue dès le premier tour. Devant les cadres de la ZANU-PF ce mercredi, Emmerson Mnangagwa a appelé ses partisans à se mobiliser pour la campagne. Il aura face à lui le nouveau patron du MDC, le Mouvement pour le changement démocratique, Nelson Chamisa, dont la formation est minée par de profondes rivalités depuis la mort de l'opposant Morgan Tsvangirai. L'opposition, qui comptait rallier les électeurs qui ont quitté le régime autoritaire pour l'étranger, a subi un revers lundi. La Cour constitutionnelle a décidé que les non-résidents ne pourront voter qu'en venant au Zimbabwe. Plusieurs autres candidats, représentants de petits partis, ont aussi prévu de briguer la magistrature suprême.
Également dans l'actualité, 2 migrants africains sont morts de soif et 80 autres ont été sauvés en plein désert nigérien alors qu'ils étaient en route pour l'Europe via la Libye. Les migrants ont été bloqués pendant 3 jours dans le désert après une panne mécanique de leur voiture avant d'être abandonnés par leurs passeurs d'après l'Organisation internationale des migrations. Les 80 survivants ont été acheminés à Agadez, la principale ville du nord du Niger, où ils sont pris en charge dans un centre de transit. Nous y reviendrons tout à l'heure dans le segment magazine. La Cour internationale de justice rendra le 6 juin son arrêt dans le contentieux opposant la France à la Guinée équatoriale qui accuse Paris d'avoir violé l'immunité diplomatique du fils du président équato-guinéen. Les relations entre les deux pays sont tendues depuis que la justice française a condamné Théodorine Obiang, lui-même vice-président du pays. Théodorine Obiang a été condamnée en octobre dernier à 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende, également avec sursis dans cette affaire dite des biens mal acquis. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta promet de récupérer tout l'argent de la corruption, dont le détournement de plus de 68 millions d'euros des caisses du Service national de la jeunesse. Nous n'aurons pas de pitié pour les voleurs, leurs jours sont comptés, a déclaré le président. Le procureur en chef du pays a annoncé des poursuites contre 54 personnes soupçonnées d'avoir détourné cet argent via des paiements fictifs ou des factures artificiellement gonflées.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Plus d'un millier de migrants ont été évacués du plus gros campement de réfugiés à Paris. Tout s'est déroulé dans le calme. La maire socialiste de la capitale française veut construire plus de centres d'accueil. Le point avec Marie Benson.
Plus de 1000 migrants ont été évacués de la zone qu'ils occupaient le long du canal Saint-Denis dans le nord-est de Paris. Ils ont été transférés vers 24 structures d'accueil, la plupart des gymnases. L'endroit a ensuite été vidé de ses tentes de fortune, puis nettoyé à fond. Anne Hidalgo, la maire socialiste de Paris, espère la construction de nouveaux centres d'accueil. Cette évacuation est la 35e opération du genre dans la capitale depuis 3 ans. Le gouvernement français souhaite évacuer sous peu 2 autres gros campements où vivent quelques 800 personnes. Ces migrants viennent principalement du Soudan, de la Somalie et de l'Érythrée. Ils vivaient dans une grande précarité après avoir fui leur pays dans l'espoir d'un avenir meilleur sur le sol français.
Un Nigérian recherché aux États-Unis pour fraude électronique et vol d'identité a été interpellé hier dans la banlieue parisienne par la police française. L'homme, âgé de 40 ans, aurait effectué plus de 2000 fausses déclarations fiscales avec des fausses identités entre 2016 et 2017 sur le territoire américain. Le préjudice est estimé à plus de 10 millions de dollars. Un mandat d'arrêt international a été lancé par le district de Virginie-Ouest. Il a été remis à la justice française qui doit statuer son expulsion vers les États-Unis, où il encourt 60 ans de prison. Aux États-Unis, justement, rarissime visite du bras droit du dirigeant nord-coréen avec une rencontre prévue ce mercredi à New York avec le chef de la diplomatie américaine. Au menu, les préparatifs en vue d'un sommet historique entre le président Donald Trump et Kim Jong-un. Le point avec Abdourahman Dia.
Le général Kim Jong-il est attendu à New York pour des discussions avec le secrétaire d'État Mike Pompeo. Ils vont tenter de se mettre d'accord sur un ordre du jour pour le sommet du 12 juin à Singapour. Washington réclame une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible. Pyongyang accepte d'en parler mais refuse qu'elle soit unilatérale. La venue du général aux États-Unis est une première en 18 ans pour un leader nord-coréen. Cet ancien chef espion a été aux avant-postes de la détente en cours. Vice-président du comité central du parti au pouvoir, il s'est rendu aux Jeux olympiques d'hiver en Corée du Sud et il a accompagné 2 fois Kim Jong-un en Chine. Outre les discussions de New York, des délégations des deux pays se rencontrent à Panmunjom, dans la zone démilitarisée, et aussi à Singapour pour parler de la logistique du sommet. De son côté, Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, se rend demain à Pyongyang, alors que le premier ministre japonais Shinzo Abe rencontre Mike Pompeo le 6 juin à Washington et sera reçu le lendemain à la Maison Blanche.
Au Yémen, des forces pro-gouvernementales appuyées par les Émiratis et les Saoudiens ont repris ce mercredi leur progression vers Hodeïda. Elles cherchent à encercler la ville portuaire, forcer les rebelles houthis qui la contrôlent à se rendre sans combat. Et puis le calme est revenu aujourd'hui entre Israël et la bande de Gaza après la plus sévère confrontation entre les forces israéliennes et les groupes armés palestiniens depuis la guerre de 2014, malgré les démentis israéliens sur la conclusion d'un cessez-le-feu. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Sans plus tarder, en condensé des nouvelles économiques en Afrique, il est l'heure de la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
Au Libéria, le président George Weah a réduit les taxes à l'importation sur plus de 2000 produits de base pour combattre une inflation galopante. Ces taxes douanières vont baisser de 40 à 81%. Il a aussi exigé au ministère du Commerce et de l'Industrie d'appliquer d'urgence une réduction cohérente et proportionnelle des prix des marchandises concernées pour apporter un soulagement aux populations pauvres. La dépréciation de la monnaie locale rend les marchandises importées impayables pour beaucoup de Libériens. À son accession au pouvoir, Weah avait fait passer de 16 à 13 dollars américains le prix du sac de 25 kg de riz, aliment de base au Libéria, entièrement importé. Le pays regorge d'importantes ressources de minerais de fer, caoutchouc et huile de palme. Pourtant, la majeure partie de la population manque encore de services de base comme l'électricité et l'eau courante. En Afrique du Sud, le Parlement approuve la loi sur le salaire minimum. Elle permettra à des millions de travailleurs de gagner un salaire minimum de 3500 rand, soit 278 dollars par mois. Pretoria vise à réduire les inégalités salariales que connaît le secteur de l'emploi dans le pays. L'Institut national des statistiques dit que des familles noires qui constituent 80% de la population totale gagneraient en moyenne 7 479 dollars par an. C'est 5 fois moins que les blancs qui représentent 8% de la population et gagnent environ 35 739 dollars par an. La croissance des États-Unis a été révisée en baisse au premier trimestre. Une consommation légèrement plus faible que prévu, un marché immobilier ralenti, des exportations moins fortes et un moindre investissement dans les stocks expliquent cette situation.
Et maintenant, un tour d'horizon de l'actualité sportive. Nous retrouvons Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Préparation du Mondial 2018, le Japon battu par le Ghana.
L'équipe du Japon, qui évoluera au premier tour dans le groupe H, a été battue par le Ghana, vainqueur des Blue Samouraïs 2-0 à Yokohama, sous une pluie battante. Thomas Partey a ouvert la marque pour les Black Stars non qualifiés pour le Mondial sur un coup franc dès la 9e minute. Emmanuel Boateng a corsé l'addition en tout début de seconde période sur pénalty. Le Japon, qui disputera en Russie sa 6e Coupe du Monde consécutive, aura comme adversaire au premier tour le Sénégal, la Colombie et la Pologne.
Préparation du Mondial toujours, Neuer a joué sans problème un mini-match test.
Le gardien allemand a fait un nouveau pas vers la Russie en jouant un mini-match d'une heure lors du stage de la Mannschaft à Ipan, dans le nord de l'Italie. La Mannschaft justement a affronté la sélection U20 allemande, mais Manuel Neuer a pris place dans les buts des juniors pour être mieux sollicité. L'équipe a gagné 2-0 et Neuer n'a été battu que par Thomas Müller sur penalty et par Julian Draxler. Lundi, il a joué 30 minutes dans les buts de l'équipe A pour sa toute première apparition sur un terrain depuis sa fracture du pied avec le Bayern Munich mi-septembre.
Affaire Benzema et les Bleus, on ne peut pas revenir en arrière, d'après le Graët.
C'est de l'histoire ancienne, d'après le président de la Fédération française de football Noël, Le Graët, ajoutant que l'équipe de France a maintenant son style de jeu. Karim Benzema est écarté des Bleus depuis novembre 2015 et sa mise en examen dans l'affaire de chantage à la sextape visant un autre international, Mathieu Valbuena. Didier Deschamps décrit son absence comme un choix sportif pour le bien de l'équipe de France et l'équilibre de son groupe actuel.
Et puis Lyon risque gros devant la commission de discipline de l'UEFA.
L'UEFA a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre du club français pour jet d'objets et utilisation d'engins pyrotechniques, perturbation de la foule, escalier bloqué et comportement raciste à la suite du match Lyon-CSKA Moscou. Cette rencontre a vu l'élimination des Lyonnais en 8e de finale de l'Europa League. L'OL sera jugé demain jeudi. La commission de discipline de l'UEFA va aussi se prononcer sur le cas du gardien de la Juventus Turin, Gianluigi Buffon, exclu lors du quart de finale retour de Ligue des Champions contre le Real Madrid.
Merci Yacouba. We'll be right back.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant de passer à notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. L'Organisation mondiale de la santé dit travailler avec les autorités de la République démocratique du Congo afin d'introduire rapidement un premier traitement pour soigner les malades d'Ebola. L'épidémie s'est déclarée le 8 mai dernier à Bikoro, à la frontière avec la République du Congo, et s'est propagée à Bandaka, où une campagne de vaccination a commencé la semaine dernière. Le dernier bilan fait état de 54 cas, dont 25 décès. Nathalie Barge a joint le docteur Pierre Fromanti, responsable Ebola de l'OMS à Bandaka, dans la province de l'Équateur.
On a compté jusqu'à 4 cas confirmés. Les derniers cas donc confirmés étaient décédés la semaine dernière. Depuis, on n'a pas détecté d'autres cas sur Mbandaka. Par contre, la semaine dernière, on a détecté des nouveaux cas dans les zones de santé de Iboko, et notamment dans un village qui s'appelle Ikipo, et dans la zone de santé de Bikoro. Entre tous les partenaires, on a des équipes réparties donc dans ces 4 villes que sont Bikoro, Ikoko Impengé, Ikipo et Iboko.
Combien de personnes ont déjà été vaccinées?
La vaccination a démarré le 21 mai. C'est une vaccination en ceinture qui vaccine les contacts, les contacts, les contacts. On est proche d'une population cible qui était environ à 490.
Vous avez prévu de vacciner environ combien de personnes et combien de temps cela prendrait-il?
On vaccine surtout autour des derniers cas confirmés dans tous les villages dont on vient de parler. Là, maintenant, la vaccination sur Mbandaka touche à sa fin. On continue à vacciner des agents de santé dans des centres de santé, des hôpitaux, des cliniques. La vaccination a débuté depuis le 28 à Bikoro, Ikipo et aussi dans un autre village qui s'appelle Bononzo. Donc, on a beaucoup avancé là depuis le début de la semaine. On déploie de plus en plus de logistique et de personnes sur le terrain. Encore 10 vaccinateurs sont partis aujourd'hui, des équipes d'Mbandaka pour renforcer les équipes à Ikipo.
Alors le vaccin est expérimental, toutefois s'il s'avérait vraiment efficace, est-ce que nous irions vers une vaccination systématique des populations exposées au risque d'Ebola en RDC et dans d'autres régions du continent selon vous?
L'efficacité du vaccin a déjà été démontrée au niveau de la Guinée. Là, on continue avec ce lot de vaccins. On est bien dans une vaccination en anneau, c'est-à-dire pour vacciner autour de là où le virus circule, et donc pas de vaccination de masse. C'est-à-dire, par exemple, on peut imaginer que, par contre, les agents de santé en République démocratique du Congo devraient aussi se protéger, puisqu'ils sont plus à risque que d'autres pays, par exemple. Et c'est quelque chose avec lequel on discute, notamment avec le ministère de la Santé. C'est quelque chose qu'il faut peut-être envisager au niveau national, c'est-à-dire vacciner les agents de santé de première ligne qui, comme vous le dites, sont plus exposés que les autres à être en contact avec des cas d'Ebola.
Est-ce que vous avez commencé à utiliser certains des 5 traitements non homologués que vous avez proposés à la RDC?
On n'a pas encore commencé. C'est prévu cette semaine. On attend les dernières autorisations. Les antiviraux sont en cours d'acheminement au niveau de Kinshasa, puis ils viendront à Mbandaka et seront offerts à titre constationnel aux patients atteints de la maladie à virus Ebola.
On écoutait le docteur Pierre Fromanti, responsable Ebola de l'OMS à Bandaka, dans la province de l'Équateur.
Ce soir dans À votre avis, Mamoudou Gassama, le jeune Malien qui a sauvé un enfant, a été reçu à l'Élysée. Lundi matin, le président français lui a annoncé sa naturalisation et lui a même proposé d'intégrer le service des sapeurs-pompiers. La présidence du Mali, quant à elle, a salué un digne et courageux fils du pays. Alors, Mamoudou Gassama, devenu héros en France, qu'en pensez-vous? Quels sont les risques de cet affichage médiatique et de cette récupération politique? Raissa Girondin en votre compagnie. Réagissez en direct à 18h en temps universel en appelant le 001 202 205 26 33.
Nous revenons sur le dossier migrants. Malgré les mesures prises par les autorités nigériennes et l'Union européenne pour décourager l'immigration clandestine vers l'Europe, la traversée du désert du Sahara continue de faire des victimes. Deux migrants africains sont morts de soif et 80 autres ont été sauvés alors qu'ils étaient en route pour l'Europe via la Libye. L'opération de secours s'est déroulée samedi dernier d'après l'Organisation internationale des migrations, c'est l'OIM. Pour plus d'explication, Abdourahman Nadia a joint Guiseppe Loprete, chef de mission de l'OIM au Niger.
C'est l'armée nigérienne qui a identifié, qui a trouvé des pick-up avec des migrants qui étaient dans la zone qui est connue comme l'arbre du Ténéré. Donc, c'est sur la route entre Agadez et Dirkou, donc vers la Libye. Et on a reçu l'appel par les autorités, les gouvernorats d'Agadez. Donc, à partir de ce moment, on a organisé la mission de sauvetage. Malheureusement, quand on est arrivé, on a trouvé la situation confirmée. Il y avait 80 migrants, en réalité 82, et deux migrants en Ghanéen et en Nigeria étaient déjà morts, malheureusement.
Et comment se portent les autres qui ont survécu?
Oui, les autres sont revenus avec nous, sont rentrés à Agadez. Ce qu'ils nous ont raconté, c'est que leur véhicule a eu une panne. Les chauffeurs, donc les passeurs qui étaient en train de les transporter vers la Libye, a appelé un véhicule de secours, qui donc quelqu'un d'autre qui arrivait. Quand l'autre véhicule est arrivé, l'armée aussi les a joués. Et donc les chauffeurs sont partis sur l'autre véhicule et ils ont laissé les migrants abandonnés dans le désert. Et les autres sont dans des conditions traumatisées, sans eau, avec peu de nourriture, les deux, donc ils étaient très faibles. Quand ils sont arrivés au centre, maintenant ils sont en train de, on est en train de les soigner et ils sont avec nous. Et maintenant, dans les prochains jours, on va commencer à organiser le retour vers leur pays d'origine, le Nigeria et le Ghana.
Justement, quelles sont les nationalités des personnes qui ont été sauvées pour la plupart?
Oui, Nigeria et Ghana. Il y a des femmes aussi.
Et des enfants?
Surtout du Nigeria. Non, les enfants, je n'ai pas voulu le rapport final, mais on n'a pas entendu qu'il y a des enfants. Donc la traite des femmes nigériennes est encore très forte et ça c'est un exemple.
La route d'Agadez avait connu une baisse, nous dit-on, une baisse d'activité avec les mesures qui ont été prises par les autorités nigériennes et l'Union européenne. Est-ce qu'on peut parler d'une reprise récemment?
Non, pas vraiment. Il y a une baisse et ça c'est confirmé. Il y a toujours quelqu'un qui arrive à passer parce qu'ils vont sur la route la nuit ou les matins très tôt ou ils essayent de contourner les villages, donc d'utiliser aussi des routes alternatives. Mais on parle pas de la même, on n'est pas à l'échelle comme il y a un an et demi ou deux ans, 2016 par exemple, où il y avait des convois qui passaient sur la route même pendant la journée. L'autre route vers l'Algérie est beaucoup plus active maintenant.
C'était Giuseppe Loprete, chef de mission de l'OIM au Niger.
Cette semaine, dans Washington Forum, retour sur la grève des étudiants qui a récemment agité les campus sénégalais. Suite aux protestations et les affrontements avec les forces de l'ordre, le président Macky Sall a annoncé une augmentation des bourses et une baisse du prix des repas dans les universités publiques. Ces mesures suffiront-elles à calmer les étudiants ? L'État sénégalais a-t-il les moyens de soutenir financièrement tous les étudiants? Quelles sont les difficultés rencontrées par les étudiants au Sénégal? On en discute ce jeudi à 19h30 temps universel sur VOA Afrique.
Le nord-est du Nigeria est le théâtre de nombreuses attaques du groupe Boko Haram. Après l'enlèvement de 200 écolières à Chibok, le gouvernement nigérian et des organisations d'aide humanitaire internationale ont lancé l'initiative École Sûre, la Safe Schools Initiative. À Maïdougouri, les écoles organisent des exercices de sécurité d'urgence pour les élèves. Malgré ces mesures, de nombreux enfants risquent toujours leur vie pour obtenir l'éducation dont ils ont besoin. Chika Odua produit ce reportage de Maïdougouri. Arzuma Kompaoré nous en fait le récit.
Pour ces élèves du secondaire, c'est une journée normale en classe de chimie. Mais quand le sifflet retentit, tout change. C'est un exercice de sécurité. Les élèves pratiquent quoi faire en cas de danger. Les exercices ont commencé cette année seulement. Mohamed Tidjani, âgé de 17 ans, leur sert de guide en simulant le son d'une explosion d'une bombe.
Quand les assaillants arrivent, nous sommes censés pratiquer ces actions pour nous protéger.
Tidjani fait référence à Boko Haram, le groupe terroriste qui a émergé à Maïdogori et déclaré la guerre au gouvernement nigérian il y a 9 ans. Ils n'ont pas encore attaqué cette école et l'administration espère que cela ne va pas changer. Le gouvernement nigérian et les agences donatrices ont mis en place l'initiative pour la sécurité dans les écoles en 2014 après l'infâme enlèvement des écolières de Chibok. Le programme aide à payer pour la formation en sécurité scolaire des éducatrices comme la directrice Kolozala. Mais elle doit encore collecter des fonds pour payer les vigiles.
Je suis celle qui finance avec le peu que nous pouvons collecter.
Cette école, la plus ancienne de Maïdogori, a été attaquée au moins 3 fois. À l'entrée, pas de garde postée. Ce journaliste entre sur le campus sans aucun contrôle. Boko Haram a tué le directeur et un autre éducateur dans cette salle il y a quelques années. Aujourd'hui, la seule protection contre une autre attaque, ce sont ces 2 bénévoles âgés qui gardent la porte arrière. Et dans cette école primaire à proximité, malgré les nouvelles mesures de sécurité, au moins 5 enseignants ont déjà quitté par peur.
Boko Haram est toujours une menace pour les écoles à Maïdougouri. Une menace pour les enseignants et même pour la communauté. En dehors des enseignants, les parents ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'école à cause de la situation actuelle. On ne peut pas deviner si telle ou telle personne est de Boko Haram.
L'UNICEF a affecté 9 millions de dollars à l'initiative pour la sécurité dans les écoles afin d'améliorer la sécurité dans les salles de classe. Les enseignants de l'école primaire de Galtimari disent que les murs de leur école doivent être renforcés. Alors que la police nigériane a été envoyée dans certains endroits proches des écoles, les éducateurs et les étudiants s'inquiètent de leur sécurité. Quant aux élèves, ils espèrent aller à l'école sans crainte. En attendant, ils comptent sur ces exercices pour les garder en sécurité.
En Tunisie, pour la 2e année consécutive, les non-jeûneurs de l'association des libres penseurs ont manifesté dans la capitale pour notamment dénoncer les arrestations de ceux qui n'observent pas le ramadan. Ces Tunisiens demandent l'arrêt de l'application d'une ancienne circulaire de 1981 qui interdit l'ouverture des cafés pendant la période de jeûne. Reportage sur place de Mabrouka Kedir.
C'est sous le slogan « Mouche Bessif, pas par la force » que Naoufal Yacoubi et ses amis ont manifesté ce dimanche 27 mai dans la capitale Tunis. Les manifestants ont exprimé leur droit de ne pas jeûner publiquement durant le mois de Ramadan. Ces non-jeûneurs ont dénoncé aussi l'application d'une circulaire datant de 1981 qui ordonne la fermeture des cafés durant le mois de Ramadan.
C'est son droit à lui.
Celui qui n'a pas envie de jeûner, c'est son droit. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Ils ont emprisonné les gens l'année dernière parce qu'ils ne faisaient pas le ramadan, alors que c'est un droit constitutionnel. C'est le droit de la conscience. Nous n'avons le droit d'être différents parce qu'en Tunisie, nous n'avons pas que les musulmans. Nous avons aussi des chrétiens et des juifs aussi.
Ces Tunisiens rappellent que la démocratie doit garantir non seulement les droits de la majorité, mais aussi ceux des groupes minoritaires.
On estime que la constitution tunisienne stipule que l'État tunisien est séculaire. L'article 2, l'article 6 sur la liberté de conscience, l'article 49 qui stipule aussi qu'on ne doit pas changer ou modifier la constitution que sous respect des droits de l'homme. Donc finalement, la constitution tunisienne est une constitution laïque.
Selon le ministère de l'Intérieur, mais aussi pour une partie des Tunisiens, la minorité des non-jeûneurs doit respecter une majorité qui jeûne. Cela pour éviter un conflit qui ne serait bénéfique pour aucun Tunisien.
la provocation de l'aspect religieux entre deux parties du peuple, une pluralité plus que 95% et une minorité, ça va causer toujours une confrontation et un conflit entre deux parties du peuple homogène. Et l'histoire nous informe que la provocation de cet aspect a donné toujours des mauvais résultats sur l'homogénéité.
VOA Afrique, les